comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le nom de certaines pathologies mentales passe dans le langage courant. Pour le meilleur, lorsque cela traduit une meilleure connaissance et une forme d'ouverture d'esprit du public. Pour le pire, lorsque cette banalisation de la maladie implique des raccourcis, lorsque le terme est employé hors contexte et devient un adjectif, voire une insulte qui renforce la stigmatisation. Pour les troubles bipolaires, c'est un peu des deux. Ces troubles sont mieux connus à la faveur de déclarations publiques de telle ou telle célébrité, reconnaissant être concerné par ces épisodes d'exaltation ou de dépression. Une exposition qui fait sortir cette maladie du registre de l'innommable, de l'ingérable, qui lui donne un visage. Mais l'adjectif bipolaire se retrouve également employé à tort et un peu à travers, confondu par certains avec des troubles dissociatifs de l'identité, pour d'autres associés à de simples sautes d'humeur. Aborder ces troubles implique donc, avant de parler traitement ou prise en charge, de s'arrêter sur leur définition, identifier les facteurs biologiques, les antécédents, expliquer les émotions pour poser le bon diagnostic, décrire les crises pour éviter les conduites à risque, comprendre les troubles psychiatriques associés, trouver des solutions adaptées, personnalisées, pour redonner aux patients des appuis solides, davantage de stabilité et le goût de la vie. La journée mondiale des troubles bipolaires, c'est le 30 mars. Avec nous aujourd'hui en studio, deux invités. Docteur Marc Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, directeur médical de la clinique du Château de Garches en région parisienne. Vous avez signé l'ouvrage « Que sais-je ?» consacré aux troubles bipolaires, édité au PU. Vous êtes également le rédacteur en chef de la revue « L'Encéphale ». Également avec nous en studio, Lucie Mailleux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agricultrice dans la Marne. Et depuis septembre 2016, vos troubles bipolaires ont été diagnostiqués justement par celui qui est aujourd'hui en face de vous, le docteur Masson. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Burkina Faso le professeur Kapouné Karfo, psychiatre à l'hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Et en fin d'émission, pour répondre à vos questions sur la sexualité, vous avez rendez-vous avec le docteur Catherine Solano, sexologue. Des questions, des témoignages et un numéro de téléphone, le 33 84 22 75 75. Ou bien sûr, vous pouvez nous laisser vos messages sur la page Facebook de l'émission.
Priorité santé sur RFI.
Lucie Mailleux, tout à l'heure en vous présentant, j'ai donc parlé de cette fameuse date de septembre 2016. Le diagnostic, avant cela, combien d'années avant de mettre un nom, avant de savoir ce qui vous arrivait ?
Plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, je ne savais pas ce que j'avais. J'ai eu un peu plus de 10 hospitalisations sans jamais avoir un diagnostic et un traitement qui convenait, jusqu'au jour où j'ai voulu soigner des troubles du comportement alimentaire et le médecin qui m'a ausculté m'a également dit qu'il y avait certainement un trouble bipolaire. Et j'ai donc été hospitalisée à la clinique de Garches et c'est comme ça que le diagnostic a été posé et qu'un traitement a été mis en place.
Et c'est un généraliste qui vous a en quelque sorte montré le chemin, conduit vers cette clinique où des personnes savaient vraiment de quoi vous allez poser justement ce bon diagnostic et vous prendre en charge de façon pertinente ?
Non, c'était des spécialistes.
C'était déjà des spécialistes. À quel moment vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? Vous aviez quel âge ?
J'avais à peu près 18 ans. Ça a commencé par une dépression qui s'est un petit peu installée. Je sentais que c'était pas normal. Jusqu'au jour où j'ai eu un vrai épisode maniaque, là j'ai vraiment compris qu'il y avait un problème.
Avec des scolarisations à ce moment-là, au moment des crises ?
Oui.
Vous étiez obligée de rester chez vous, ça se passait, vous faisiez quoi pour décrire sans être intrusive, hein, mais ça veut dire quoi? Vous dites ma première crise maniaque, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne contrôle pas?
À ce moment-là, j'étais en première année de médecine. Ce qui a déclenché, c'est que j'ai loupé mon horaire de concours Et je suis rentrée dans un processus où moins je dormais, moins j'avais envie de dormir. Donc j'allais plus du tout en cours, ça a commencé à inquiéter ma famille et je commençais à faire des choses un petit peu étranges. Tout était possible.
Vous étiez une super femme, quoi. Voilà. Vous aviez des pouvoirs extraordinaires.
Alors c'est un petit côté pervers parce que ça c'est agréable en fait, on se sent un petit peu pousser des ailes. Mais au bout d'un moment, quand on dort plus...
Mais vous êtes mise en danger à ce moment-là ?
Non, mais j'aurais pu.
Tout à l'heure, vous avez dit ce diagnostic, hein, on a dit 2016. Avant, est-ce qu'il y avait eu d'autres noms de maladies énoncées ? Est-ce que certains médecins, sans du tout leur jeter la pierre, est-ce que d'autres médecins se sont trompés ?
Alors, lors de la première hospitalisation, donc c'était un épisode maniaque, tout de suite, le trouble bipolaire a été évoqué. On ne me l'a pas expliqué et on m'a donné un traitement qui, en fait, ne correspondait pas. Du coup, je l'ai refusé. Enfin, je n'ai pas voulu le prendre. Après, on a dit à mes parents que c'était certainement de la schizophrénie. Et puis après, ils ne savaient pas bien. C'était plutôt des troubles de l'humeur.
Alors, docteur Marc Masson, on vient d'entendre avec Lucie Mailleux là, certains signes, certains symptômes, cette impression d'être toute puissante, moment de tristesse, moment d'euphorie, des facteurs déclenchants comme ce concours. Comment se fait-il, docteur Masson, que vous ayez posé le bon diagnostic quand certains confrères, encore une fois, sans dire que c'est criminel, grave ou quoi que ce soit, pourquoi d'autres ont vu de la dépression, de la schizophrénie ?
Eh bien, je dirais que en Europe et aux États-Unis, en moyenne, le délai ou le retard pour poser un diagnostic de trouble bipolaire, il est en moyenne de 7 à 9 ans. Donc c'est vrai que pour Lucie, dans son témoignage, c'était un petit peu plus long. Alors, personnellement, je suis arrivé à un moment où il y avait déjà toute une évolution qui permettait justement de repérer ces fameux cycles. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sauts d'humeur, ce sont des moments de pathologie de l'humeur, que ce soit des dépressions ou des phases d'exaltation, d'excitation maniaque qui durent plusieurs jours, plusieurs semaines et qui alternent avec des moments où la personne va plutôt mieux. Et donc effectivement, rétrospectivement, on a plus de facilité pour voir apparaître ces cycles et se dire au fond, effectivement, c'est bien un trouble bipolaire dont on souffre.
Si le diagnostic est long, c'est donc aussi implicitement lié à la maladie, c'est qu'il faut un certain temps pour comprendre ce qui se passe.
Alors, tout à fait, mais l'enjeu effectivement, c'est de porter le diagnostic le plus précocement possible, et notre démarche aujourd'hui, elle vise à essayer de trouver ce qu'on appelle des signes prédictifs, hein, des signes qui vont nous orienter très vite vers un trouble bipolaire qui va même quand il s'exprime dans 60% des cas, et c'était le cas pour Lucie au début par une phase dépressive, chez un adulte jeune, on va essayer de rechercher ces signes prédictifs, ces signes d'orientation vers un trouble bipolaire sous-jacent.
Lucie Mailleux, vous étiez passée par de nombreuses hospitalisations. Ça se passait comment ? C'était à votre demande ou c'était des hospitalisations contraintes ?
Il y avait un petit peu de tout. Parfois, c'était contraint. La première, j'ai accepté d'y aller. Et j'ai vécu beaucoup de choses difficiles lors des hospitalisations. Quand parfois, l'équipe soignante perd un petit peu, on va dire, contrôle de leurs patients. Ils nous mettent en petit secteur, on se retrouve dans des chambres. C'est pas toujours facile, les hospitalisations, en tout cas en hôpital psychiatrique.
C'était quoi, l'isolement qui vous angoissait ? C'était de vous trouver dans un territoire inconnu ?
C'est-à-dire que souvent, on arrive dans un état d'excitation, donc il faut un petit peu calmer cette excitation. Donc on se retrouve un petit secteur, dans une chambre entre quatre murs. Parfois j'avais un matelas au sol et un pot de chambre.
On dit que c'est spartiate, hein, quand on fait référence à une certaine période de l'histoire, donc c'est raide, hein. C'est vraiment
voilà.
Dur à vivre.
Et surtout, si je peux comparer avec la clinique de Garches, en fait, on voit très peu de psychiatres, on est là, mais on ne sait pas pourquoi on est
en
là.
Attente, et... En fait, on a l'impression, quand on est dans cette situation, qu'on vous laisse le temps que la crise passe, plus que d'être véritablement prise en charge de façon active.
Oui, c'est ça.
L'hospitalisation, c'est l'un des critères, justement. Il y a aussi la mise en danger de soi-même. Docteur Marc Masson, cette hospitalisation, elle se fait dans des services psychiatriques lambda, parce qu'on dit ce sont souvent des jeunes gens qui sont concernés. Il n'y a pas une prise en charge spécifique pour eux ?
Alors, c'est vrai, la maladie, elle débute effectivement à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, même si elle pourra durer toute la vie si le traitement ne permet pas un bon contrôle des rechutes. Alors, effectivement, les hospitalisations ont lieu alors soit dans le service public, donc dans les services de psychiatrie, ou dans des cliniques, des cliniques privées qui sont, en tout cas en France, assez bien réparties sur le territoire. Alors, il n'y a pas, c'est vrai, peut-être d'unité spécifique pour les hospitalisations. En tout cas, il y a des centres de jour, des hôpitaux de jour qui commencent à se développer sur le territoire français et qui sont spécifiques pour la prise en charge et la convalescence et le rétablissement des troubles bipolaires.
Aujourd'hui, Lucie Mailleux, les hospitalisations, c'est fini ?
Oui.
Vous êtes prise en charge comment ? C'est quoi votre traitement ?
J'ai du Lamictal le matin et du Théralite le soir.
Donc là, ce sont des noms de quel type de molécules ?
Alors, en fait, Lucie a évoqué deux traitements qui sont les traitements médicamenteux préventifs sur le long terme pour les troubles bipolaires. Donc, Lucie a évoqué le Théralite, c'est-à-dire les sels de lithium, qui restent le traitement de référence pour le trouble bipolaire, notamment le trouble bipolaire de type 1, et qui assure la meilleure prévention des rechutes sur le versant d'excitation, d'exaltation maniaque. Et l'autre médicament que Lucie évoquait, c'est la lamotrigine, le Lamictal. C'est un médicament qui appartient à la grande famille des antiépileptiques. Et comme certains antiépileptiques, il a des propriétés positives sur l'humeur et sur la prévention, pour le coup, là, des rechutes dépressives. Et donc, c'est vrai que la combinaison des deux, celle de lithium et lamotrigine, permet une très bonne prévention sur les dépolarités de la maladie.
Alors, traitement chronique, traitement des crises aiguës. Est-ce que chez certains individus, docteur Masson, la phase dépressive va supplanter la phase qu'on dit maniaque, d'hyper-excitation, voire d'exaltation ? Est-ce qu'il y a des bipolaires tristes et puis des bipolaires plutôt excités ?
Alors, si je reprends la première partie de votre question sur le fait que la dépression peut supplanter, si je puis dire, les phases d'excitation. Bon, les phases d'excitation maniaque ou hypomaniaque, c'est-à-dire de moindre intensité, on arrive assez bien à les traiter sur le plan médicamenteux, puisque le traitement repose sur le traitement des crises, qu'elles soient dépressives ou maniaques, et puis deuxièmement, le traitement préventif des rechutes. Le traitement des crises maniaques ou hypomaniaques, on le maîtrise assez bien, sous réserve effectivement d'une hospitalisation qui parfois peut être difficilement vécue par le patient, mais en général on arrive bien à le soigner assez, je dirais, facilement. Par contre, traiter les phases dépressives dans les troubles bipolaires, c'est tout un enjeu et c'est beaucoup plus compliqué qu'une dépression lambda, une dépression qui ne s'inscrit pas dans un trouble bipolaire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas manier les antidépresseurs de la même façon, parce qu'il y a un risque de virage de l'humeur, parce que les antidépresseurs répondent, enfin les patients qui souffrent d'un trouble bipolaire répondent moins bien au traitement antidépresseurs, et donc on doit utiliser des stratégies un peu plus complexes, un peu plus longues, et c'est vrai qu'en termes de qualité de vie, de retentissement sur le vécu, beaucoup de patients bipolaires souffrent beaucoup plus du mauvais contrôle des phases dépressives, de la mauvaise prévention des rechutes dépressives que de la polarité maniaque. Oui.
Alors mélancolie, manie, hospitalisation, un élément qu'il faut absolument aborder, docteur Marc Masson, c'est celui du risque suicidaire.
Oui, alors malheureusement le risque suicidaire reste élevé dans la maladie bipolaire, puisque on estime que 5 à 10% des patients qui souffrent d'un trouble bipolaire décéderont par suicide. On sait aussi que par rapport à d'autres pathologies psychiques, ce qu'on appelle l'intentionnalité suicidaire, c'est-à-dire la volonté vraiment déterminée de mourir quand on fait une tentative de suicide, est plus forte chez les patients bipolaires que chez les patients qui souffrent d'autres pathologies. Donc c'est dire que ça reste une préoccupation, je dirais, pour les soignants, pour les aidants, pour l'entourage, et puis aussi, bien sûr, pour les patients qui, quand ils sont assaillis par ces idées suicidaires.
Lucie Mailleux, c'est quelque chose dont vous pouvez parler ? Ça vous est passé par la tête ? Voire même, il y a eu des tentatives de passage à l'acte ?
Oui, j'ai... D'ailleurs, ça me troublait un peu à l'âge de, 20 ans, 23 ans, de penser, d'avoir des idées suicidaires. C'était un petit peu troublant. Et lors d'un groupe de psychoéducation, je m'étais fait la réflexion qu'en fait, on sait que on peut avoir des idées suicidaires quand on souffre d'un trouble bipolaire, et que je pense qu'en amont il faut préparer un petit peu les choses et se protéger de ces idées noires.
Justement, il y a beaucoup de tabous quand on parle du suicide. C'est rare de pouvoir parler à quelqu'un qui a eu ces idées. Mais je vais vous poser cette question. Une fois que la tentation terrible est passée, c'est quoi votre sentiment? Vous dites, je ne voulais pas, c'est ça, je ne voulais pas, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Vous en avez conscience?
Oui, on se dit ouf et heureusement. Et...
Parce que c'est un message qu'il faut faire passer, parce qu'il y a encore des gens qui disent, bah écoutez, s'ils veulent mettre fin à leur jour, c'est leur... Voilà. Non, je ne voulais pas, c'est quelque chose qui m'a submergée, qui m'a poussée à ça.
Oui, et souvent en fait, on veut évidemment se soulager, mais soulager les autres, parce qu'on a l'impression qu'on est un fardeau pour son entourage et que ça devient invivable. Mais moi je connais des personnes qui l'ont fait et je pense que si on leur redonnait leur chance, ils ne le feraient pas. Donc
justement, votre entourage, vous n'en avez pas parlé jusqu'à présent. On imagine qu'ils ont toujours été autour de vous puisque c'est arrivé assez tôt. Comment ça s'est passé sur la longueur, sur la durée, cet accompagnement puisque votre famille est toujours là?
Je pense que pour eux, ça a été une épreuve pas facile et ils sont sentis pris au dépourvu. Ils savaient pas quoi faire, ils savaient pas comment ils pouvaient m'aider. Et c'est vrai que quand j'ai été hospitalisée à Garches avec le docteur Masson, on avait fait un entretien familial et je pense que ça les a beaucoup soulagés. Ils ont compris ce qui m'était arrivé et ils ont compris que avec le traitement, tout pouvait rentrer dans l'ordre.
Voilà, il y a la thérapeutique, il y a aussi l'éducation thérapeutique, la pédagogie. Docteur Marc Masson, quand c'est possible, quand la famille est toujours là, c'est tellement important d'expliquer à l'entourage ce qui est en train de se passer.
Ah oui, non, c'est tout à fait, je dirais, fondamental, parce que à la fois, ça aide la personne qui souffre de son trouble bipolaire dans son cheminement personnel d'acceptation et aussi de vécu avec ce trouble. Et puis, bien sûr, ça éclaire l'entourage. Ça, d'une certaine façon, c'est rassurant, éclairant, et aussi, ça améliore les relations intrafamiliales. Et puis, on peut aussi y voir une dimension préventive, c'est-à-dire que l'entourage est aussi demandeur de connaître les signaux d'alerte. Lucie parlait tout à l'heure, au tout début de sa maladie, ces crises d'exaltation maniaque, des troubles du sommeil, qui sont très souvent avant-coureurs d'une décompensation. Eh bien, l'entourage peut être aussi aidant, je dirais, à ce niveau-là, dans le dépistage des symptômes, dans la mesure où il y a une bonne alliance entre la personne qui souffre de son trouble, son entourage immédiat et ses soignants. Et je dirais que tout cela peut former un cercle humain vertueux qui est capital à mon sens pour la prévention et puis l'évolution positive sur le long terme.
Au-delà du cas précis de Lucie Mailleux, est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent que quand il y a justement ces maladies qui affectent d'une certaine manière le comportement, le libre arbitre de l'individu est là et que ce n'est pas vraiment une maladie, que finalement, allez, arrête ! Il y a encore des gens qui raisonnent comme ça ou maintenant c'est quand même dépassé?
Non, malheureusement, on entend toujours cela. Moi, j'appelle ça la secouothérapie, c'est-à-dire les entourages qui disent mais tu n'as qu'à te secouer.
Quand on veut, on peut.
Tu n'as qu'à faire ci,
tu
n'as qu'à faire cela. Bon, alors ça, c'est surtout pour le versant dépressif de la maladie. Alors malheureusement, la secouothérapie ne fonctionne pas ou heureusement, je sais pas comment il faut le dire. C'est vrai qu'il y a toujours. Quelles que soient d'ailleurs les générations, on voit ça à la fois chez les parents ou chez les enfants ou chez les collatéraux comme type de réaction. Bon, quelque part c'est humain parce
que c'est aussi pour se protéger de dire finalement c'est.
Je pense que c'est peut-être pour se protéger, c'est peut-être aussi par méconnaissance en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'irais que même après 25 ans d'exercice, moi je suis toujours surpris de voir comment les phases pathologiques peuvent altérer justement le discernement, le comportement, la manière d'être des personnes, et puis aussi de voir à contrario ce qui est le cas pour Lucie. Bon, bah 3 ans après. Je dirais aujourd'hui, il est indétectable ce trouble bipolaire chez Lucie et donc elle mène une vie tout à fait normale. Et ça, c'est même, vous voyez, avec l'expérience, ça reste toujours, même si on sait, on a tout un rationnel, une connaissance, une expérience, ça reste toujours quelque part, j'allais dire, troublant.
Oui, mais en même temps, c'est toujours le meilleur argument pour consulter, pour avoir le bon diagnostic, la bonne prise en charge. Quel espoir pour des gens qui sont justement depuis si longtemps en errance thérapeutique.
Oui. Ben, je crois que il ne faut jamais perdre espoir. Les troubles bipolaires sont un ensemble de maladies pour lesquelles nous avons des traitements à la fois médicamenteux et non médicamenteux et qui se combinent. Lucie parlait des démarches de psychoéducation qui sont donc tout l'apprentissage, la connaissance de la maladie, des principes du traitement dans lesquels la famille est impliquée. Et il y a aussi des techniques aujourd'hui de remédiation cognitive qui visent à améliorer la mémoire, la concentration, l'attention, qui peuvent être souvent impactées après les crises. Et puis aussi des mesures d'accompagnement psychothérapeutique plus personnelles qui peuvent être proposées. Et donc, on a quand même tout un ensemble de traitements. Alors, c'est vrai que quand le diagnostic est posé, et il faut le faire le plus précocement possible malgré toutes les difficultés qu'on a évoquées tout à l'heure. La mise en place du traitement médicamenteux préventif long terme prend généralement quelques mois aussi à produire vraiment tous ses effets, et puis c'est à ce moment-là qu'on peut proposer toutes les mesures d'accompagnement psychothérapeutique. Donc c'est vrai que bon, ça prend un certain nombre de mois, mais je dirais le gain sur le long terme est tout à fait réel et permet de garder l'espoir.
Vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Ce premier auditeur nous appelle du Sénégal, de Dakar, c'est Thierno. Bonjour Thierno.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Masson vous écoute.
Je suis avec ma copine depuis 3 ans. On sortait ensemble. Son comportement commençait à changer. Elle ne mangeait pas. Elle ne dormait pas. Elle était plus facilement nerveuse. Et du coup, je suis à inquiéter pour elle.
Oh, la ligne. La ligne se détériore considérablement, Thierno. Je me demande s'il vaut mieux pas vous rappeler. On va essayer réessayer de dire quelques mots pour voir si on réussit à vous entendre. Allez-y.
Elle était plus facilement nerveuse. Je suis fini à inquiéter pour elle. Et dans ce cas, je lui ai amené à l'hôpital psychiatrique de femmes. Et là-bas, on lui a dit qu'elle avait des troubles bipolaires. Il lui a donné un traitement qu'elle a pris au début, mais il ne lui convenait pas, ce traitement. Elle ne mangeait pas, elle ne dormait plus, elle est fatiguée. Et du coup, je suis allé voir un médecin généraliste qui lui a dit d'arrêter le traitement. Et depuis, qu'elle ne prenait plus les médicaments. Moi-même, j'ai remarqué une nette amélioration, mais tout de même, il lui arrive des fois d'être nerveuse.
Vous voulez dire quoi quand vous dites « elle est nerveuse », chacun d'entre nous est à sa manière un petit peu nerveux. Ça veut dire quoi dans le cas précis de votre amie?
Elle se défend, vraiment. Elle me dit souvent que je suis de sexe féminin, donc vraiment, je dois me défendre. À chaque fois, vraiment, elle a ses idées en tête. Oui.
J'entends vraiment mal ce que vous me dites. J'ai une question à vous poser, Thierno. Elle a pris combien de temps, son traitement?
Un an.
Un an. Et là, elle a arrêté depuis combien de temps?
2 ans maintenant.
Et aujourd'hui, ce qu'elle fait, ce que vous avez, c'est ce sont de vives disputes, c'est ça, dans votre couple? Il y a des grosses bagarres entre vous, c'est ça?
Non.
Juste des disputes.
Oui, j'ai des disputes, voilà.
Mais pourquoi vous jugez cela anormal? Vous voyez bien qu'autour de vous, des disputes au sein d'un couple, ce sont des choses qui arrivent. Il n'y a pas pour autant une maladie derrière tout ça.
Oui, mais c'est le psychiatrique lui-même qui lui a dit que vous avez des troubles bipolaires. Mais les médicaments que le médecin lui avait ça ne lui convenait pas.
Oui, mais aujourd'hui, ses symptômes, elle dort, elle mange correctement.
Vraiment,
vous avez...
Elle dort, elle mange correctement, vraiment.
Mais il y a des disputes dans votre couple, mais en quoi vous semble-t-elle malade, du coup?
En tout cas, elle se défend trop d'elle, vraiment. Elle est...
Agressive, vous voulez dire susceptible, agressive?
Voilà.
C'est ça, mais ça c'est plus du caractère, docteur Marc Masson. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Thierno?
Déjà bonjour Thierno. Alors c'est vrai que le diagnostic, on l'a dit en début d'émission, il est difficile à poser. Alors parfois on le pose avec retard, parfois on le pose aussi avec excès, c'est-à-dire on peut faire une erreur. Alors je ne dis pas que c'est le cas de votre ami, mais enfin il faut aussi savoir que parfois on pose un diagnostic avec retard et parfois on le pose avec excès. En tout cas, si j'ai bien compris, le traitement médicamenteux qui lui a été proposé, je ne le connais pas, mais il était mal toléré. Donc quand quand un traitement est mal toléré et inefficace au bout de quelques mois, effectivement, il est plus raisonnable de reprendre un avis médical pour changer le traitement ou effectivement reconsidérer le diagnostic qui a été posé. Donc là, si j'ai bien compris aussi, Tierno, parce que la ligne n'est pas très bonne, depuis 2 ans, il semble que votre amie n'ait plus de traitement et qu'elle ne présente plus les symptômes qui vous avaient conduit à l'amener à l'hôpital de Fannes, si j'ai bien compris. Donc moi je dirais que là pour le moment il vaut mieux rester sur une certaine observation, c'est-à-dire que continuer à mener votre vie et en se disant que s'il y avait un symptôme ou un signe qui vous inquiétait, à ce moment-là de proposer à votre ami de retourner consulter le psychiatre, vous voyez, mais de plus de rester, je dirais, assez vigilant et confiant en même temps, puisqu'au fond 2 ans là sans traitement montre une relative bonne évolution. Donc on peut se demander si ce diagnostic avait été posé à ce moment-là était uniquement une hypothèse ou peut-être une erreur, mais en tout cas, je crois que ça mérite de garder une certaine vigilance, mais en même temps rassurante.
Voilà, Tierno, pour ce commentaire du docteur Marc Masson. Vous souhaite une excellente journée à Dakar, au Sénégal. On va partir pour le Cameroun, pour Yaoundé, où l'on retrouve Karen. Bonjour, Karen.
Bonjour, Caroline.
Toute l'équipe vous écoute, bonjour, allez-y.
Docteur. Bonjour, Karen.
Bonjour.
Bon, oui, comme je l'ai expliqué, je vous passe ce mot. Mais 6 ans, je vais être sexuellement abusée. Et puis, 29 ans, je suis allée vivre chez ma grande sœur, où pendant des années, son mari et les neveux de son mari vont dans la maison, m'ont sexuellement harcelée aussi.
Je n'entends, je ne comprends, Karen, c'est totalement saccadé, honnêtement, je comprends pas ce que vous dites, et il est absolument essentiel qu'on vous comprenne bien, parce que sinon, évidemment, on ne peut pas vous poser les questions pertinentes. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil, essayer de parler un petit peu plus doucement, s'il vous plaît, parce que sinon, on pourra pas vous écouter. Allez-y, Karen.
D'accord. Oui. Donc, je disais, tout va de la période de mes 6 ans.
Oui.
Ouais, j'habitais chez mes parents, j'avais été violée par un cousin. Je n'avais dit à personne. Et puis, je suis allée vivre quelques années plus tard chez ma grande sœur. Là-bas, j'ai été sexuellement harcelée par son mari et les neveux de son mari. Bon, j'ai essayé de me retourner vers ma maman pour lui dire ce qui se passait, mais elle a trouvé que je me plaignais trop. Mm-hmm. Et elle a demandé que je reste tranquille. Mm-hmm. Donc, du coup, je me suis sentie seule. Et comme je n'avais pas d'amis, je n'avais personne à qui parler. À partir de ce moment, j'ai commencé à être dépressive, déprimée. Quand j'étais seule, je pleurais tout le temps. Et j'étais nerveuse et je réagissais violemment à beaucoup de choses, à tout et à rien. Il suffit que quelqu'un dise un truc qui m'énerve, là je m'énerve et je réagis très violemment. Avec le temps, j'ai commencé à parler seule. Je ne sais pas si c'était le besoin de parler à quelqu'un ou autre chose.
Ouais.
Et jusqu'à aujourd'hui, c'est resté. Donc, quand je suis seule, je me retrouve, je parle seule. C'est systématique. Chaque jour, je passe pas une journée sans que je parle, je réponds. S'il faut rire, je ris. S'il faut pleurer, j'en pleure. Donc, c'est comme ça tout le temps. Par rapport à votre humeur, j'ai quand même pu dormir. Parce que j'ai quand même lu beaucoup de magazines de psychologie qui m'ont permis de dompter ça. Bon, maintenant, ma question au docteur est de savoir si est-ce que cette habitude de parler seul, c'est véritablement un problème ou bien, je sais pas, ou bien il faudrait que je consulte pour pouvoir traverser un au-delà.
Karen, quand vous nous avez décrit votre parcours, hein, vous avez commencé par quelque chose d'absolument primordial. Ce sont ces deux traumatismes qui sont arrivés dans votre vie très tôt. Un viol quand vous étiez enfant, du harcèlement toujours au sein de la famille quelques années plus tard. Ça, est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Je veux dire à quelqu'un du corps médical ou un psychologue?
Bon, c'est vrai que quand je suis arrivée à l'université de 19 ans, je me suis rapprochée c'est une de mes enseignantes à qui j'ai essayé de parler. Elle m'a demandé de me tourner vers un psychologue qui aurait des armes nécessaires pour m'aider. Mm-hmm. Bon, c'est vrai, je me suis tournée vers un psychologue. C'était un homme, mais j'ai arrêté quelques mois plus tard parce qu'en filigrane, j'ai eu l'impression qu'il me disait que toutes les femmes violées éprouvent du plaisir et qu'elles se peinent pour rien.
Mais c'était donc s'il vous disait ça, c'est que c'était pas un vrai psychologue, parce que un psychologue qui vous dit ça, c'est un charlatan.
Bon, je n'en sais rien, mais ça m'a beaucoup poussé à j'ai beaucoup culpabilisé, donc du coup je me suis dit c'est mieux d'arrêter. Et puis depuis, je n'ai plus jamais consulté.
Vous n'avez jamais plus consulté depuis. Docteur Marc Masson, Karen qui est inquiète, en fait, elle le dit, elle a conscience non seulement de ce qui lui est arrivé, mais aussi de ce qu'elle fait. Elle est inquiète parce qu'elle parle toute seule. Moi, je ne suis pas du tout médecin, je ne suis pas du tout psychologue, mais elle a besoin de dire ce qui lui est arrivé à quelqu'un.
Oui, tout à fait, Karine. Bon, bonjour, Karen. Il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées là dans votre témoignage, notamment bon les antécédents, comme disait Caroline, de traumatisme, d'abus. Alors il faut savoir que ces abus dans l'enfance, dans l'adolescence, sont plus fréquents chez des personnes qui vont développer à l'âge adulte des troubles bipolaires ou des troubles borderline, qui sont un autre trouble de la régulation des émotions. Et je crois que dans votre situation, Karine, ce serait effectivement peut-être, si vous avez accès à un médecin psychiatre à Yaoundé, de pouvoir obtenir une consultation pour faire un bilan un petit peu plus approfondi sur l'ensemble des symptômes dont vous souffrez, parce que effectivement la question peut-être d'un trouble borderline se pose, ou d'un trouble bipolaire ou d'un autre type de trouble, mais je crois que effectivement il y a suffisamment de signaux je dirais d'alerte pour vous encourager, Karen, a consulté à Yaoundé. Je pense que ça pourrait vous être très bénéfique.
Karen, est-ce que vous avez des contacts? En tout cas, est-ce que vous savez vers qui vous tournez à Yaoundé pour aller trouver une oreille et trouver justement ces conseils, cette écoute?
Bon, c'est vrai que là, j'ai une amie médecin, mais elle est gynécologue. Donc je ne sais pas si ça compte aussi pour beaucoup ou pas.
Gynécologue, mais elle peut certainement vous orienter vers quelqu'un qui saura répondre à vos questions. Si elle est gynécologue, parlez-lui de ces abus sexuels que vous avez subis, et elle saura certainement vous orienter vers un de ses confrères qui pourra vous aider en consultation.
D'accord, merci.
Voilà, très bonne journée à vous à Yaoundé, Karen. Est-ce qu'il y a des études, docteur Marc Masson, qui permettent de savoir si la fréquence des troubles bipolaires augmente ?
Alors, bon, les études qu'on appelle d'épidémiologie, c'est-à-dire qui étudient la fréquence, la prévalence des maladies au sein de la population générale, en ce qui concerne les troubles bipolaires, depuis qu'on les réalise de manière assez rigoureuse, assez scientifique, hein, depuis quelques décennies, ne semble pas montrer d'augmentation de la prévalence du trouble bipolaire. Alors, il y a deux types de troubles. Troubles bipolaires de type 1, où il y a des phases d'exaltation, d'excitation maniaque sévère, assez typique. Et puis le trouble bipolaire dit de type 2, où il y a les phases d'excitation sont beaucoup plus modérées, on appelle ça des petites manies ou hypomanies, et donc qui, dans les deux cas, peuvent alterner avec des dépressions. Donc si on prend en compte la forme vraiment typique du trouble bipolaire de type 1 et le type 2, là on est à peu près 1-2% de la population générale selon les études. Par contre, si on prend une conception un petit peu plus élargie, avec des variations d'humeur un peu plus modérées, là on peut avoir 3-4% de la population. Mais enfin, moi je suis assez partisan pour qu'on en vienne à une conception un peu plus restrictive, et donc voilà, 1-2% de la population générale probablement.
Alors dans votre livre, votre Que sais-je sur les troubles bipolaires, vous écrivez dans la majorité des cas, la maladie bipolaire se déclenche à la fin de l'adolescence. Docteur Masson, est-ce qu'on a des explications pourquoi à cet âge-là?
Oui. Alors, bon, comme je le disais tout à l'heure, les troubles bipolaires sont une maladie qui s'origine, si je puis dire, dans le développement cérébral, et notre cerveau devient adulte non pas à 18 ans comme notre carte électorale, mais un peu plus tard, vers 25-28 ans. Et donc il y a des processus qu'on appelle de maturation, c'est-à-dire d'achèvement en quelque sorte de à la fois de la substance grise et de la substance blanche de notre cerveau, qui s'opère à cette période-là, c'est-à-dire fin de l'adolescence, l'adolescence, début de l'âge adulte, qui en font aussi une période de vulnérabilité importante. Vulnérabilité importante à quoi ? Au stress, aux substances toxiques, notamment au cannabis. Et donc, à cette période-là, on fait ses études secondaires, on fait ses études supérieures, c'est la période des premières rencontres amoureuses, on peut avoir des concours, on peut avoir des parents qui divorcent, etc. Et donc, tous ces stress dans cette période de grande vulnérabilité du cerveau peuvent favoriser, si on a cette prédisposition, le déclenchement de la maladie.
Alors, tout de suite, illustration des troubles bipolaires en Afrique de l'Ouest. Là aussi, on va parler diagnostic et prise en charge avec un exemple au Burkina Faso.
Priorité santé sur RFI.
Où l'on vous retrouve, professeur Kapouné-Carfo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à l'hôpital Yalgado Ouédraogo d'Ouagadougou. Vous trouvez actuellement en France pour le travail. Professeur Carfo, est-ce que les troubles bipolaires sont aujourd'hui vraiment connus au Burkina ?
Merci beaucoup. Les troubles bipolaires sont très connus au Burkina et en Afrique.
On n'a vraiment pas de chance avec les lignes téléphoniques aujourd'hui. On va vous rappeler, professeur Kapouné-Carfo. On va essayer de vous rappeler. On va vraiment essayer d'avoir une meilleure ligne. On va poursuivre en attendant l'échange avec nos deux invités en studio, Lucie Mailleux, docteur Marc Masson. Lucie, tout à l'heure, le docteur Masson a évoqué au moment justement de l'adolescence ses comportements, ses habitudes, ses goûts aussi. Conduite parfois à risque, conduite addictive. Est-ce que vous aviez justement des comportements comme ça qui vous mettaient un petit peu en danger ? Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des troubles du comportement alimentaire ? Est-ce qu'il y a eu d'autres manifestations comportementales qui justement, après vous l'avez compris, étaient peut-être associées à ces troubles bipolaires ?
Non, pas forcément. En revanche, les troubles du comportement alimentaire m'ont vraiment handicapée. Après, j'ai pas eu de problème d'alcool ou de drogue. Et sinon, c'était plus le sommeil. Dès que je commençais à perdre le sommeil, souvent... Il y avait un épisode maniaque qui arrivait.
Justement, sur les facteurs déclenchants, est-ce que dans votre cas personnel, tout à l'heure vous aviez parlé de ce stress lié aux examens, au concours, est-ce que vous aviez repéré des moments, des rencontres, des circonstances qui faisaient que là vous disiez attention, il y a risque que ça explose ?
Étant donné que j'étais pas diagnostiquée, non, je perds des pieds sans le savoir, sans prévenir.
Finalement, vous ne cherchiez pas non plus à savoir, vous aviez pas compris qu'il y avait peut-être des éléments qui pouvaient déclencher.
Pas du tout, non, je subissais complètement.
Docteur Marc Masson, est-ce que justement avec vos patients, vous essayez de lister ces moments décisifs, ces moments où on peut passer un petit peu dans une autre dimension ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que les situations à risque, on essaie de les identifier et aussi les symptômes avant-coureurs des rechutes qui peuvent être assez spécifiques chez certains patients donnés. Et en même temps, il y a toujours ce grand warning, si je puis dire, des troubles du sommeil. Et c'est vrai qu'il y a des liens assez complexes entre la régulation du rythme veille-sommeil et les dérèglements de l'humeur et donc les troubles bipolaires. Et donc c'est vrai qu'à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, notamment les périodes d'examen, de concours, provoque des grands décalages dans l'heure de coucher, avec une augmentation du stress, et ça rend effectivement une situation très haut risque d'une décompensation et d'entrée dans la maladie à ce moment-là.
Tout à l'heure, on a parlé des médicaments. Ça veut dire, est-ce que vous allez donner, par exemple, des médicaments qui vont influencer, essayer de favoriser le sommeil ?
Alors tout à fait, c'est vrai que l'hygiène de sommeil, bon d'abord elle est avant tout comportementale, c'est-à-dire d'avoir des horaires de coucher bien réguliers, d'éviter de faire du sport après 20h, d'éviter les stimulations lumineuses excessives, les écrans, etc. après 22h. Donc il y a déjà toutes ces mesures, si vous voulez, liées à l'environnement et au comportement. Et puis ensuite, il y a aussi les compléments biologiques qui peuvent être intéressants. Alors soit effectivement le complément à la sécrétion naturelle de mélatonine. Aujourd'hui on peut prescrire de la mélatonine pour induire le sommeil plus facilement, qui vient supplémenter la sécrétion naturelle de mélatonine dans notre cerveau, voire effectivement ponctuellement en cas de situation à risque d'utiliser des somnifères pour éviter les décalages d'endormissement.
Docteur Marc Masson, Quand un de vos patients vous demande « Pourquoi je suis bipolaire ?», qu'est-ce que vous lui répondez ?
Ben, je dirais que c'est une grande injustice. Comme toute pathologie, il n'y a pas de responsable, si je puis dire. Il n'y a pas non plus de coupable, mais il y a juste une injustice fondamentale qui fait qu'on est touché par une maladie et on n'a rien demandé pour cela.
Alors, faute de temps, hélas, on ne peut pas redonner la parole au professeur Carfo de l'hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Je me tourne vers vous pour la conclusion de cet échange, Lucie Mailleux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous assumez pleinement votre maladie? Certains aussi se demandent pourquoi, parce que, comme il y a l'injustice chez certains, il y a, par rapport justement à ces maladies mentales, un sentiment de honte, de culpabilité, de stigmatisation, contre lequel on essaie de lutter justement en faisant ce type d'émission, malgré tout. Est-ce que c'est quelque chose qui se dit, je suis bipolaire, ou est-ce que c'est quelque chose qui se cache ?
Maintenant, oui, il n'y a aucun problème pour moi à dire que j'ai un trouble bipolaire. Je suis fière de tout ce qui a été mis en place et de l'équilibre que j'ai atteint. Et j'espère que ceux qui sont encore dans l'impasse gardent espoir et qu'ils atteignent cet équilibre.
Et vous avez conscience justement de votre part active aujourd'hui dans cet apaisement, comme c'est important que vous-même vous soyez investi dans le traitement, dans les thérapies, d'avoir participé à tout ça, parce qu'aujourd'hui vous en avez vraiment le résultat devant les yeux. C'est votre vie.
Oui, oui, c'est indispensable. Le jour où on comprend que on est atteint d'un trouble bipolaire, c'est là que la porte s'ouvre et que la guérison est accessible.
Alors tout à l'heure, quand on a commencé cet échange, c'est notre dernière question, notre dernier échange, vous avez dit j'étais en études de médecine. Après, vous avez essayé la pharmacie. Alors aujourd'hui, vous êtes agricultrice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment en est-on arrivé là?
Mon père est agriculteur, j'ai toujours aimé travailler avec lui et voilà.
Et vous ne le regrettez pas, ce changement d'orientation ?
Non, j'ai voulu voir d'autres choses et je suis revenue à ce que j'aimais.
Est-ce que vous diriez finalement que cette activité aussi correspond davantage à ce que vous êtes, et aujourd'hui vous êtes davantage que ce que vous êtes, que ce que vous vouliez être? C'est compliqué, toutes ces conjugaisons différentes, à un autre moment de la vie, autrement dit aujourd'hui vous êtes vous-même.
Oui, tout à fait.
Et vous le ressentez comment, ça ?
C'est très agréable, c'est exceptionnel et c'est un bien-être complet.
Ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup, Lucie Mailleux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci beaucoup à vous, docteur Marc Masson. Je rappelle que vous êtes psychiatre, directeur médical de la clinique du Château de Garches en région parisienne. Et vous avez signé cet ouvrage très complet, ceux qui se posent encore la question. Qu'est-ce que c'est des troubles bipolaires? Eh bien, il y a toutes les réponses. Que sais-je consacré à ces troubles, édités donc au PUF, Presse Universitaire de France. Et on retrouve à présent le docteur Catherine Solano, sexologue. Bonjour Catherine.
Bonjour Caroline.
Alors on va répondre bien sûr aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Et ce premier auditeur qui est en ligne avec nous nous appelle du Mali, c'est Moussa. Bonjour Moussa.
Bonjour Moussa.
Bonjour Catherine, vous allez bien?
Ça va très bien.
Moussa, on écoute votre question, docteur Solano vous écoute.
Bien, en fait moi j'ai cherché en fait un moyen de contraceptif masculin dans la sous-région ouest-africaine. On dit qu'il n'y en avait pas, qu'il y avait juste comme seule solution à mon problème de faire une vasectomie.
Où est-ce que vous êtes allé vous renseigner, Moussa, pour avoir des informations en matière de contraception?
Dans les hôpitaux publics au Mali et à Abidjan, à Dakar.
Et vous vous posez des questions justement sur cette vasectomie?
Exactement, parce que je veux savoir si, au cas où je fais ça, est-ce qu'il y a un remède pour après revenir en arrière?
Pour avoir justement à nouveau une fertilité. Docteur Catherine Solano, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Moussa?
Alors d'abord, la première chose que je veux dire à Moussa, c'est bravo, parce que en matière de contraception, ça repose presque tout le temps sur les femmes et il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'en préoccupent, alors que l'amour, ça se fait à deux.
Alors docteur Solano, on va revenir à cette question de Moussa. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre au sujet de la contraception masculine?
Ben, actuellement, ce qu'il y a de disponible, il y a deux contraceptions masculines seulement. La première, c'est le préservatif. Le préservatif masculin, ben, c'est une contraception contraception masculine dans le sens où c'est l'homme qui va quand même la contrôler. Bon, la vasectomie, c'est une contraception définitive. Ça consiste à couper les canaux déférents, donc ça empêche les spermatozoïdes d'aller dans le sperme. Il y a toujours du sperme quand on a fait une vasectomie, mais il n'y a plus de spermatozoïdes dedans. Le problème, c'est que non, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que c'est fait, un homme, il va être stérile pour toute sa vie. Cela dit, il y a quand même une solution pour avoir des enfants quand on a une vasectomie, c'est que avant de faire la vasectomie, on conseille aux hommes quand ils sont jeunes et qu'ils se disent peut-être que je voudrais quand même des enfants, de faire un dépôt de sperme en banque du sperme. C'est-à-dire qu'on va congeler les spermatozoïdes. On peut pas le faire dans son congélateur, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est parce que c'est congelé à température très basse et donc ils vont être conservés. Et si un jour on veut des enfants, on a des paillettes de sperme qu'on peut utiliser. Alors évidemment, c'est pas une méthode aussi sympathique que de faire l'amour, mais ça marche et c'est une possibilité.
Sinon, en matière de contraception masculine, il y a aussi d'autres méthodes qui sont moins, on va dire, radicales. Si on parle par exemple du préservatif, est-ce qu'on peut dire que c'est une contraception masculine, oui ou non ?
Ah oui, on peut dire que c'est une contraception masculine, le préservatif, bien sûr. C'est une contraception masculine et en plus, l'avantage qu'elle a, cette contraception, c'est qu'elle protège aussi des infections sexuellement transmissibles, ce que font pas les autres contraceptions.
Voilà, Moussa, est-ce que le docteur Catherine Solano a répondu à votre question ?
Oui, bien sûr, oui.
Eh bien, on vous souhaite une excellente journée chez vous au Mali. On va passer tout de suite à peut-être une autre question. Là, une question Facebook qui nous a été envoyée du Bénin de Cotonou par Abdelkader. Question au sujet d'une question gynécologique, hein, les pertes blanches. Est-ce qu'en ayant des rapports sexuels non protégés avec une femme qui a des pertes blanches, eh bien, un garçon court un danger, c'est sa question Facebook.
Dans cette question, il y a plusieurs questions. La première, c'est que quand on a des rapports sexuels sans préservatif avec une femme, quelle qu'elle soit, eh bien, on court toujours un risque de se voir transmettre une infection sexuellement transmissible ou de lui transmettre dans les deux sens, ça va. Et si la femme a des pertes blanches ? Mais la question, c'est que, en fait, toutes les femmes ont des pertes blanches. Donc les pertes blanches, c'est normal, c'est pas du tout quelque chose d'anormal. Hein. Donc c'est l'humidité de la zone intime, un peu comme on a de la salive dans la bouche. Vous allez pas vous dire, est-ce que je cours un risque d'embrasser une femme qui a de la salive dans sa bouche ? Bah, c'est pareil pour les rapports sexuels. Toutes les femmes ont des pertes blanches parce qu'il y a une humidité. En plus, pendant un rapport sexuel, les pertes, enfin la lubrification augmente, donc c'est quelque chose de normal. Alors, bien sûr, quand une femme a une infection sexuellement transmissible, ça peut se traduire par des pertes blanches, mais qui sont anormales. En général, elles sentent pas bon, elles sont bizarres, elles grattent, elles brûlent, mais ça n'est pas systématique. Il y a des pertes blanches aussi qu'on voit pas forcément. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a des infections sexuellement transmissibles qui changent pas du tout les pertes blanches. Par exemple, une femme qui serait séropositive pour le VIH ou pour une hépatite virale, bah, elle aura des pertes blanches normales. Donc, les pertes blanches, ça n'informe pas du tout sur le fait qu'on ait un risque d'infection sexuellement transmissible ou pas.
Alors, préservatif ou pas, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on décide de faire, docteur Solano ?
De toute façon, disons que si on ne veut pas de risque d'IST, d'infection sexuellement transmissible, il faut un préservatif. Si on veut s'en passer, il faut être en couple stable et fidèle et avoir fait tous les deux des tests de dépistage du VIH-SIDA, des hépatites, peut-être des chlamydiés et des gonocoques. Et éventuellement, si le médecin juge que c'est nécessaire, il peut faire aussi d'autres bilans.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, docteur Catherine Solano. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Priorité Santé. Et bien sûr, si vous avez des questions, des messages, 33 84 22 75 75, la page Facebook de l'émission aujourd'hui, à la fabrication et à la réalisation, on change un peu la formule, Ophélie Lassen, Louise Calédec, Didier Bleu, demain, vous pourrez réentendre l'émission que nous avions consacrée à l'alcool, impact pour la santé, comment arrêter. On se retrouve demain.
Et Priorité Santé avec Sounou Assurance. Comme les brillants entrepreneurs, profitez d'une assurance épargne et réalisez vos projets en toute assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.